On vit dans un temps merveilleux. C'est pas tout le monde qui dirait cela, peut-être. Si on regarde les nouvelles, si on entend qu'est-ce que les gens disent, il y a des choses effrayantes qui se passent dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais vous savez une chose que la parole de Dieu dit qui est claire, claire, claire. C'est que Jésus va venir pour chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que Jésus va venir pour une église qui est sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour servir Dieu. Jésus va venir pour une église qui vit dans la victoire. Je n'ai pas du tout la conviction que Jésus va venir chercher une église qui est défaite, qui est fatiguée, qui est sur le point de lâcher. Jésus va revenir pour une église qui est victorieuse, qui marche dans un triomphe que Jésus a procuré à la croix. Il va venir pour une église qui connaît sa place, connaît son autorité, qui connaît sa mission dans ce monde, n'est-ce pas? Jésus va venir pour une église qui, lui, qui rayonne de gloire et d'amour, n'est-ce pas vrai? Mais pour devenir cette église glorieuse, en fait, la parole de Dieu dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On voit les cinq dons du ministère qui sont donnés à l'église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et on voit, c'est dans ce contexte-là, dans ce chapitre, que Dieu parle de venir pour une église glorieuse, dans le chapitre 5 d'Éphésiens. Je n'ai pas planifié de dire tout cela ce matin, mais j'ai vraiment à cœur, parce que ce matin, qu'est-ce qu'on va voir dans la parole de Dieu? C'est dans le but de nous préparer pour devenir cette église glorieuse. Jésus revient, je crois, bientôt. Et bientôt, pour Dieu, ça peut... Vous savez, avec lui, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Hein? Ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans. Et laisse-moi vous dire que même si c'était dans 100 ans, c'est quand même bientôt, comparé à l'histoire de l'humanité. Mais je crois que ça va être beaucoup plus vite que 100 ans. Et vous? Tous les signes sont là, tous les signes des temps. On voit, Jésus a dit que personne ne va connaître ni l'heure, ni le jour de son avènement. Mais il disait, par contre, qu'on pourrait reconnaître les signes des temps. Et qu'on, dans le fond, on pourrait reconnaître la saison de son retour. On voit que les enfants de Dieu ne sont pas les enfants des ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres pour qu'on soit surpris par cette journée. On est les enfants de lumière, on devrait savoir. Parce que nous sommes en communion avec lui qui revient bientôt. Mais avant qu'il revienne, il y a une œuvre à faire. Il y a des choses que Dieu veut faire en nous, au milieu de nous et à travers nous. Et le message aujourd'hui, c'est dans ce but. Je vais juste prendre ma Bible et on va faire une déclaration de la foi qu'on aime faire ici à Vie Comblée. Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on croit dans notre cœur et ce qu'on dit avec la bouche s'accomplit. Et on est très fort là-dessus. Hein, dans cette église, on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu. On croit que toute écriture est utile. Et on croit aussi que ce n'est pas une parole qui est lue qui va changer votre vie. C'est une parole qui est reçue. Hein? C'est pourquoi la parole nous exhorte, Jacques a exhorté les gens à recevoir avec douceur la parole implanté qui est capable de sauver vos âmes. Il faut recevoir la parole. Il faut que la parole soit plantée dans notre cœur. Il faut que la parole pousse dans notre cœur et porte du fruit. Amen. Donc, on va faire cette déclaration de la foi. On va dire ceci. Si vous avez une Bible avec vous, prenez votre Bible dans vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte avec presque tous les versets de la parole qu'on va lire ce matin. On va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. C'est une parole vivante. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Car Dieu ne ment pas. Et toute sa parole est vraie. Toutes ses promesses sont oui et amen. Et je vais recevoir maintenant la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et Dieu va veiller sur sa parole. Et Dieu va faire en sorte que cette parole s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Philippiens chapitre 3. Aujourd'hui, on va faire un troisième message sur le sujet citoyen du ciel. N'est-ce pas bon de savoir que vous et moi, nous sommes, même si on est les citoyens, les résidents du Canada, on habite dans la belle province du Québec, dans la ville merveilleuse de Drummondville. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas de Drummondville. Je pense qu'il y a des gens de Victoriaville aujourd'hui et peut-être d'ailleurs aussi. Mais même si nous habitons ici sur la terre, selon la parole de Dieu, nous sommes vraiment les citoyens du ciel. Nous ne serons pas, mais nous sommes déjà. En Philippiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a dit ceci. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Selon dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Tellement de stock, on pourrait dire, dans ce verset. Il y a des personnes qui vivent comme les ennemis de la croix de Christ. Les caractéristiques de ces personnes, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans les choses qui devraient leur faire honte. Et en plus, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne voient pas plus loin que cette planète, cette vie. Ils ne voient pas plus loin qu'aujourd'hui. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, et combien de vous, vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur? Vous êtes les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et si on est vraiment les enfants de Dieu, on devrait vivre comme les enfants de Dieu. La Bible dit en Colossiens que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres. Autrefois, nous étions les citoyens, on pourrait dire, d'un autre royaume, le royaume des ténèbres, dont Satan est le prince, dont Satan est celui qui est en charge. Laisse-moi vous dire, c'est pas de fun de vivre sous son autorité. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est meurtrier, il est menteur, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Il nous promet des choses, des belles choses, des choses glorieuses, et qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le contraire. Et nous tous, nous étions sous son empire. Nous étions tous sous son influence. En fait, l'apôtre Jean dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et la plupart du monde, ils ne savent même pas. Mais la Bible dit que Dieu nous a délivrés de la du royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Autrefois, j'étais citoyen dans notre royaume, le royaume des ténèbres. Mais maintenant, j'ai été transporté. Il nous a transportés littéralement. Ce n'est pas une chose future, mais dans l'esprit, j'étais transporté et j'étais né de nouveau et je suis né d'en haut. Si tu pourrais voir mon certificat de naissance dans le naturel, c'est marqué que je suis né à Saint-Charles, au Missouri. Mais si vous regarderiez mon certificat de naissance dans l'esprit, c'est marqué, le lieu de naissance de Ken Taylor, c'est Jérusalem céleste. Et je suis, parce que je suis né de nouveau par l'Esprit et dans l'Esprit, je suis aujourd'hui même un citoyen du ciel. Mon nom est inscrit dans une véritable ville. Ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas un principe. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité, une véritable ville qui a des rues pavées d'or, qui est une belle ville. Il n'y a pas besoin du soleil parce que le Seigneur lui-même éclaire la ville, car Dieu est lumière, Dieu est amour. Il y a un fleuve dans cette ville, c'est un fleuve d'eau vive. Amen. Il y a des arbres, même l'arbre de vie est dans cette ville. On sait que dans cette ville, aujourd'hui, il y a de ma parenté qui sont déjà rendus. Je sais, mon grand-père, il est là, maintenant même. N'est-ce pas merveilleux de savoir, hein? J'ai des personnes que j'ai connues et que vous avez connues, ils sont déjà rendus dans cette ville. N'est-ce pas merveilleux? Et cette ville est une véritable ville. Il y a un gouvernement. Et c'est qui gouverne? Jésus. Il y a les lois qui gouvernent cette ville. N'est-ce pas? Il y a de l'ordre dans cette ville. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas des ordres de la loi à Jérusalem. Les ordres de la loi ont déjà été expulsés, n'est-ce pas? Il y en avait un qui s'appelait Lucifer. Il a révolté contre Dieu et il a réussi à convaincre un tiers des anges d'aller avec lui. Et ces gens, ces créatures, on pourrait dire, pas ces gens, ces anges ont été expulsés, jetés dehors, et ils n'ont jamais plus le droit. N'est-ce pas? Je veux juste prendre quelques minutes ce matin pour nous rafraîchir les mémoires que nous, en tant que chrétiens, nous sommes ici sur la terre comme les pèlerins, comme les voyageurs et comme les étrangers, les extraterrestres. Hein? Mais pas dans... Dis pas ça aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont penser que vous faites partie d'un secte de... Dis pas ça. Ils ne comprennent pas, vous savez. Mais la réalité, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nos noms sont inscrits au ciel et selon la parole de Dieu, nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. Nous étions enterrés avec lui, ressuscités avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis actuellement et nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu sur le trône avec Jésus. Jésus est la tête de l'Église et je suis le corps. Je suis un membre dans un corps qui s'appelle Christ. N'est-ce pas merveilleux? Donc même si vous marchez sur la terre, vous êtes assis dans les cieux. Aujourd'hui, pas demain. Ce n'est pas une chose qui va se passer. Vous n'allez pas devenir un citoyen du ciel. Et il y a trop de chrétiens qui vont passer toute leur vie chrétienne avec les doutes. Et la façon qu'ils vivent, c'est comme ils espèrent qu'un jour, si je suis assez bon, je vais me présenter devant le trône de Dieu et il va juger si je mérite de devenir un enfant du ciel et un citoyen du ciel ou non. Laisse-moi vous dire, ça c'est déjà réglé en Jésus. Si vous êtes en Jésus-Christ, c'est déjà réglé. Vous avez déjà votre passeport. Votre preuve de citoyenneté, c'est votre nouvelle naissance. Tous ceux qui sont nés d'en haut sont les citoyens d'en haut. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on n'est pas encore rendu là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que un jour, le Seigneur Jésus va venir de notre ville céleste, Jérusalem céleste. Maintenant, il est assis à la droite du Père. Un jour, il va se tenir debout. Et je ne sais pas comment tout cela fonctionne, mais tout ce que je sais, c'est que nous qui sommes ici sur la terre, nous allons entendre une trompette. Hein? On va voir dans les airs le Seigneur Jésus, le même Jésus qui est venu, qui est monté au ciel. De la même façon qu'il est monté, il va revenir. Et on va le rejoindre dans les airs. On ne va pas tous mourir, mais nous qui restons, nous serons changés dans un clin d'œil qui transformera le corps de notre humilité en conformité avec sa gloire. C'est-à-dire qu'il y aura une surge de puissance surnaturelle et tout d'un coup, ce qui est mortel serait englouti par l'immortalité. Mon corps physique ne serait plus susceptible à la douleur, à la mort, ou à quoi que ce soit, je vais transformer instantanément dans un clin d'œil. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça va faire? Quel sentiment vous allez avoir quand tout d'un coup, je ne suis plus immortel, je suis immortel, et instantanément vous êtes dans l'air avec Jésus, pour éternité. Mais jusqu'à ce jour-là, on a besoin de marcher dans ces corps mortels ici sur la terre. Et en fait, ce qu'on fait étant dans notre corps va déterminer notre niveau de vie au ciel. Hein? Vous avez juste à lire 1 Corinthiens chapitre 3 pour voir cela. Parce que les œuvres de chacun, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les bonnes œuvres, selon Éphésiens 2.10. Car nous sommes tous son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Et la Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement sauf Jésus-Christ, mais que chacun prenne garde de la façon qu'il bâtit dessus. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou on peut bâtir avec du foin, du chaume, du bois. Et l'œuvre de chacun va être éprouvée. Un jour, pas devant le parce que, laisse-moi vous dire, mes péchés sont déjà jugés à Jésus. Mon salut est déjà, c'est clair. Je sais que je suis sauvé. Mais un jour, ceux qui sont chrétiens vont être face à face devant Jésus, devant le tribunal de Jésus-Christ. Pas le trône du jugement, mais le tribunal de Jésus pour recevoir une récompense pour qu'est-ce que nous avons fait étant dans notre corps. Amen. Je n'ai pas planifié de dire toutes ces choses, mais c'est bon, n'est-ce pas? Et je pense qu'il faut vivre avec cela, avec cette révélation qu'un jour, il faut qu'on comparaisse devant le tribunal de Christ pour recevoir. Pas pour recevoir un jugement, est-ce qu'il est sauvé ou pas sauvé, mais pour recevoir les récompenses. La Bible dit clairement que si quelqu'un, si l'œuvre qu'il a bâtie est encore là, après avoir passé par le feu, il va avoir une récompense. Mais sinon, il va souffrir une perte. Mais lui, il sera sauvé, mais comme celui qui s'échappe du feu. Donc, ce n'est pas une question d'être sauvé et pas sauvé, mais c'est une question des récompenses au ciel. Qu'est-ce qu'on fait étant dans notre corps? Mais regardons bien, dans ces versets qu'on a lus, il y a quelque chose, en 2 Corinthiens chapitre 5, on a lu la semaine passée, plusieurs versets, on a souligné trois choses. Vraiment important que si nous allons vivre ici sur la terre, comme les citoyens du ciel, on a dit qu'il faut que les gens soient capables de reconnaître la différence, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient ici, comme moi par exemple, je ne suis pas né au Québec. Et quand j'ouvre ma bouche, les gens souvent vont poser la question, d'où est-ce que tu viens? Hein? Moi, je suis Québécois, dans mon cœur, je suis là. Et j'ai l'intention de rester là jusqu'à ce jour que Jésus revient. C'est mon intention. Mais laisse-moi vous dire, quand même, les gens vont reconnaître un accent. Je sais que vous n'avez pas reconnu. Je parle avec un accent. Mais juste pour que vous soyez au courant, j'ai un accent. Mais ce n'est pas pire. Je pourrais parler beaucoup pire que cela, si tu veux. Si tu veux vraiment que je parle avec un accent américain, je peux le faire, mais... ça ne m'étonne pas trop. Donc, moi, je fais quand même des efforts pour parler de mieux que je peux, tout en sachant que probablement, parce qu'ils disent que pour parler une deuxième langue sans accent, je pense qu'il y a trois critères. Il faut avoir moins de 12 ans. Il faut avoir moins de 12 ans. Il faut avoir moins de 12 ans. C'est ça que j'ai entendu. Pourquoi? Moi, j'ai des enfants qu'eux autres, ils n'ont pas d'accent. Hein? Tu parles avec mon fils Andrew, il parle québécois. Donc, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que nous, en tant que chrétiens, on devrait vivre d'une façon que les gens vont poser la question. D'où est-ce que vous venez? Hein? Est-ce que vous êtes d'ici? Peut-être pas dans ces termes-là, mais ils vont poser des questions. C'est ça que Pierre a dit, 1 Pierre chapitre 3, 15. Sanctifie Christ comme Seigneur dans ton cœur et sois toujours prêt à répondre à ceux qui te demandent une raison pour l'espérance que tu as. Donc, il y a des gens, on devrait vivre d'une façon, c'est-à-dire que notre langage, notre culture, Hein? Il y a certaines choses, même si on va dans un autre pays, il y a quand même des choses de notre culture, de notre langage qui restent avec nous. N'est-ce pas? Et ça devrait être la même chose pour nous. Il y a des choses, on devrait avoir un langage céleste ici sur la terre. La façon qu'on parle. On devrait, il y a un code de conduite, n'est-ce pas, au ciel? Les gens sont respectueux, les gens marchent toujours dans l'amour, les gens ne se chicanent pas au ciel, n'est-ce pas? Donc, pourquoi attendre aller vivre là pour comprendre et adapter notre comportement au code de conduite du ciel? Pourquoi pas commencer tout de suite? Ce serait beaucoup plus de fun, n'est-ce pas? Pas juste pour nous, ça serait plus agréable pour nous, mais ça serait plus fructueux pour le monde. Le monde verrait, il y a une différence. Il parle d'une façon différente, il pense d'une façon différente, il marche d'une façon différente. Notre culture du ciel devrait se voir. Moi, j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime expérimenter les cultures différentes. J'aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des personnes... Faites pas des changements, hein? J'ai jamais compris des personnes qui voyagent en Outre-mer, les Nord-Américains, et qui vont rechercher de toute leur force les McDo. Les personnes, hein? C'est vrai, hein? Les personnes, les Nord-Américains qui vont en Europe, et au lieu de manger les mecs de la France ou d'Italie, etc., ils vont chercher, « Oh, j'ai juste besoin d'un Big Mac. » ça a l'air bizarre, ça a l'air drôle, ça sent pas pareil comme chez nous. Hein? Mais vois-tu, pourquoi? Ok, c'est vrai, n'est-ce pas? J'ai jamais compris cela. On quitte pour trouver les choses différentes. Mais nous, en tant que citoyens du ciel, quand on voyage sur cette terre, il y a certains éléments de notre culture qui devrait se voir. Amen. Pour que le monde sache que nous sommes les chrétiens. Et en 2 Corinthiens chapitre 5, on a déjà vu trois choses, mais ce matin, on va voir trois autres choses bien importantes. On va lire notre texte, 2 Corinthiens 5, 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tire gloire de ce qui est dans les apparences, tu peux souligner le mot apparence, et non dans le cœur. Tu peux souligner le mot le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse. Souligne cette phrase, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous pouvez souligner cette phrase, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ces versets sont inspirés de Dieu. C'est une exhortation qui vient de l'Esprit Saint qui nous dit, nous les citoyens du ciel, comment nous devrions vivre ici sur la terre. Encore des instructions pratiques, des conseils pratiques pour vivre comme des enfants de Dieu, comme les citoyens du ciel, ici sur la terre. Et la première chose qu'on voit ici, que si on va vivre comme les citoyens du ciel et on va vivre la volonté du ciel sur la terre, qu'il faut mettre l'accent sur ce qui est dans le cœur et non pas sur les apparences. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, tout est basé sur les apparences. N'est-ce pas? Tout est basé sur les apparences. Les gens veulent apparaître bien devant les autres. Mais souvent, c'est pas pour les bonnes raisons. Je suis pas en train de dire que les apparences n'ont aucune importance. Ça, c'est pas vrai. Car Dieu a même dit d'éviter même l'apparence du mal, n'est-ce pas? Et du péché. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes, là, il y a un équilibre. Il y a des chrétiens qui disent, mais Dieu, il s'intéresse pas du tout à l'extérieur. Donc, ce que je fais à l'extérieur, ça, c'est pas grave. Ce que je porte comme vêtement, c'est pas grave. Ce que je fais avec mon corps, c'est pas grave. Car la Bible dit, et c'est vrai, c'est marqué dans vos notes même, En Samuel 16, 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Dieu regarde notre cœur. Pourtant, si notre cœur est en règle avec Dieu, je vais vous dire une chose. Ce que vous faites à l'extérieur va refléter, devrait refléter les valeurs de votre cœur. Donc, une personne qui vit dans le péché à l'extérieur, une personne qui fait des choses qui ne sont pas vraiment exemplaires, une personne qui démontre qu'il est plus influencé par la culture de ce monde que par la culture du ciel. Cette personne qui dit, « Oh, mais tu sais, ce n'est pas grave, car Dieu regarde mon cœur. » Oui, mais est-ce que tu as pris le temps de regarder ton cœur? Est-ce que ton cœur est vraiment en règle avec lui? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Et ce n'est pas à moi de vous juger, ce n'est pas à vous de me juger. C'est à chacun de nous de se juger soi-même, n'est-ce pas? Mais on voit que quand même, si on veut faire la volonté de Dieu ici sur la terre, il faut qu'on mette l'accent sur le cœur. Car Dieu voit le cœur. Il sait exactement qu'est-ce que tu penses dans ton cœur. Des fois, il y a des personnes qui peuvent être très gentilles. Oh, comment ça va, Nicole? Ça va très bien, oui, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, c'est comme... Si seulement tu savais qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit cette semaine. Ça me fâche et... J'ai de la misère à être dans sa présence. C'est pas vrai, je le t'aime. Hein? J'ai rien contre... Selon ma connaissance, j'ai rien contre qui que ce soit. Et si jamais le Seigneur me montre que j'ai quelque chose, je le règle tout de suite. La vie est trop courte pour avoir de l'amertume dans le cœur. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, on peut jouer même à l'église, n'est-ce pas? On vient à l'église et comme Dieu a dit même, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc on peut venir, on peut sauter, on peut danser, on peut lever les mains, on peut chanter les chants. Mais si dans notre cœur, on médite le mal, si dans notre cœur, on soupçonne le mal, si dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas réglées, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi, plus que jamais auparavant, Dieu veut que notre cœur soit net et que notre cœur soit propre devant lui. J'aimerais mieux, et des fois on va faire des erreurs, mais comme un grand homme de Dieu a dit une fois, j'aimerais mieux être avec une personne qui est droit dans son cœur, mais qui a tort dans sa tête, que d'être avec quelqu'un qui a raison dans sa tête, mais qui a tort dans son cœur. Vous savez, les pharisiens avaient tort dans leur tête sur bien des choses. Ils étaient capables de citer les versets de la parole de Dieu. La Bible dit telle chose, la Bible dit ceci, Ils connaissaient la lettre de la loi, mais la Bible dit que la lettre tue l'esprit vivifié. Est-ce que c'est une excuse pour une doctrine qui est malsaine? Non, je suis très fort là-dessus. Il faut avoir une saine doctrine, mais pas mettre tellement l'accent sur la connaissance, car la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, Dieu regarde le cœur. Donc, sondez votre cœur. Examinons notre cœur. Disons, Seigneur, tu connais mon cœur. Je veux que la motivation de mon cœur soit pure à 100%. Ça va se manifester et le monde va voir la pureté de notre cœur. N'est-ce pas bon? Alléluia. Deuxième chose qu'on a besoin de faire, pour marcher comme les citoyens du ciel. Laissez-vous diriger par l'amour. Tout le monde dit l'amour. On a lu dans le verset, notre texte, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Bon, là, j'ai mis dans vos notes plusieurs versions de ce même verset. Dans le français courant, c'est marqué, en effet, l'amour de Christ nous domine. Posez-vous la question, c'est quoi qui est la force dominante dans votre vie? C'est quoi la chose qui vous domine plus que toute autre chose? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dominées par une mauvaise estime de soi. Vous savez, tout ce qu'il fait dans la vie est colorié par le fait qu'ils n'ont pas vraiment d'estime d'eux-mêmes. Il y a d'autres personnes qui sont motivées par la haine, par l'amertume. Et ça, c'est vraiment pas agréable d'être avec ces gens-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ces gens ont besoin d'aide. On a besoin d'aller à leur secours avec un message de paix, un évangile de réconciliation, n'est-ce pas? Mais vous savez que si on est animé par un esprit de rancune, d'amertume, la vie, vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible dit, en effet, l'amour de Christ nous domine. Dans la parole vivante, c'est marqué, nous sommes subjugués par l'amour que Christ nous a témoigné. Et en effet, l'amour de Christ nous étreint. Parce que ce mot presse ici, je l'ai dit souvent dans cette église. J'ai utilisé cet exemple. Imaginez que sur mon soulier aujourd'hui, que le lacet était tout défrayé. Oh, comment est-ce qu'on dit ça? Par défrayé, frissonné, échiffré. On a des brins, des centaines de brins de fil qui vont dans une centaine de directions différentes. Tu prends ça et tu essaies de mettre ça dans le trou. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Oui.
Ça va mal. Et si vous êtes encore dans un corps humain, c'est frustrant des fois même. Hein? C'est vraiment frustrant. Et c'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a pas d'ordre dans le lacet, n'est-ce pas? C'est tout en désordre. Et des choses vont dans tous les sens différents et ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment une bonne image de la vie chrétienne de beaucoup des personnes. Les personnes que leur vie, ils ont toutes sortes de choses qui se passent dans leur vie. L'amertume, le non-pardon, la frustration et tout va, l'égoïsme. Et on essaie d'aller de l'avant et on est frustré. Ça ne marche pas, ça ne fit pas. La vie est une vie de frustration. Vous savez de quoi je parle? Mais ici, la Bible dit que l'amour de Dieu nous presse. Le mot presse, ça veut dire vraiment, littéralement, c'est comme quand on prend des brins qui sont tous séparés et on les presse, on met de la pression, on les met tous ensemble, on peut les twister ensemble. On va le presser, twister ensemble. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand tu mets le lacet dans la bouche? Tu mets de la pression avec tes doigts pour le twister, tous ces brins sont dans le même sens, alignés. Vous êtes capable de prendre ça et mettre ça au plein centre du trou, n'est-ce pas? Facilement. Et ça fait du bien aussi. Quel soulagement! Mais vous savez que l'amour de Dieu va prendre toutes les choses, tous les éléments de notre vie qui sont en désordre, et ça va les ramener en ligne avec la volonté de Dieu. Ça va être pressé tous ensemble et on serait capable d'être propulsé au plein centre de sa volonté pour notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vie? C'est quoi ta volonté? Je veux vivre la volonté du ciel sur la terre, mais comment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Voici, je vais vous dire, moi j'ai une révélation pour vous, de la volonté de Dieu pour votre vie, le plan de Dieu pour votre vie. Voulez-vous savoir c'est quoi le plan de Dieu pour votre vie? C'est vraiment pas compliqué. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toutes vos pensées même. Hein? Et aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Ah ouais, mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Il veut que vous tombiez en amour avec lui et que vous donniez toute votre vie pour aimer les autres. Parce que cet amour divin, on parle pas d'un amour humain. L'amour humain change du jour au lendemain. Hein? C'est pourquoi une épouse peut dire, « Oh, je t'aime chérie, et un mois plus tard, je t'aime plus. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai plus d'amour pour toi. » Ça, c'est un amour naturel. L'amour agapé, inconditionnel de Dieu, c'est un amour surnaturel et divin. Et la Bible dit que l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Cet amour divin est là, et c'est cet amour divin qui veut nous dominer. Il faut se laisser dominer par l'amour. Donc, dans le fond, il faut que l'amour soit le guide pour chaque décision que vous prenez. Posez-vous la question, que ferait l'amour? Seigneur, je ne sais pas, c'est quoi ta volonté dans cette situation? Que ferait l'amour? Et c'est à chaque fois, à chaque instant. Savez-vous que le succès, ce n'est pas une destination. Le succès, c'est un voyage. Et si vous prenez une bonne décision, à chaque seconde,
60 secondes à la fois, vous avez réussi à faire la bonne chose pendant une minute, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un de vous croyez que vous êtes capable de faire la volonté de Dieu pendant un second? Hein? Si vous êtes capable de faire un second, vous pouvez faire 60. C'est une minute. Si vous êtes capable de faire une minute, vous pouvez faire 60 minutes, n'est-ce pas? Juste à chaque fois que vous êtes face à face avec une situation, vous posez la question, que ferait l'amour? Et ça devient automatique après les années d'avoir pratiqué cela. Ça, c'est la clé. Après les années d'avoir pratiqué cela. Si vous êtes capable de faire une heure, vous pouvez faire 24 heures, n'est-ce pas? Si vous pouvez faire 24 heures, vous pouvez faire 7 jours, n'est-ce pas? On peut arriver à la place, on parlait d'une église glorieuse, où on ne pêche plus. Silence. Je dis, on peut. C'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Tu vas juste aller à 2 Pierre. Hein? Si ces choses sont en vous, avec abondance, vous ne trébucherez jamais. C'est Dieu qui l'a dit, pas moi. Et il y a des personnes qui enseignent que non, et les chrétiens, c'est obligatoire, ils vont pêcher au moins une fois par journée. Je m'excuse, mais si on commence la journée avec l'idée que je ne sais pas quand, mais aujourd'hui je vais pêcher. Imaginons si tu es chrétien, commencerais la journée dans l'autre sens. Aujourd'hui, je vais me laisser guider par l'amour. L'amour de Dieu va amener tous les éléments de ma vie ensemble, les presser ensemble, va me propulser dans le plein sens de sa volonté. Et une minute à la fois, je vais faire la volonté de Dieu, je vais marcher dans l'amour. Et à la fin de la journée, je vais avoir terminé la journée sans avoir péché. Et le lendemain, vous recommencez le même processus. On est capable, n'est-ce pas? Tout le monde dit, on est capable. Car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Laissez-vous diriger par l'amour. L'amour est la chose la plus importante. Et puis, on va continuer. On a lu dans notre texte que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous dans son mort, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, troisième chose, c'est pas compliqué, mais vivez pour Jésus et non pas pour vous-même. Posez-vous la question, pour qui et pourquoi est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez pour vous-même en demandant à Jésus de vous accompagner? Il y a beaucoup de personnes qui vont formuler leur projet, leur plan, ils vont dire, Seigneur, bénis mes projets, Seigneur, bénis mes plans, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma famille, bénis ceci, bénis cela, bénis, bénis, bénis. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le plan de Dieu pour votre vie est déjà béni. Donc, si c'est beaucoup moins compliqué juste de commencer la journée en disant, Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Quel est ton plan pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse aujourd'hui? Aide-moi à être rempli de la connaissance de ta volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Et si je suis rempli de la connaissance de sa volonté avec toute sagesse et vraiment je fais sa volonté en me laissant diriger par l'amour, laisse-moi vous dire que son plan, ses projets sont déjà bénis. Donc je rentre dans la bénédiction. Vous n'avez pas souvent besoin de prier pour être béni. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas méchant. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si, même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que si vous faites telle chose, les bénédictions vont vous poursuivre. Donc, au lieu de courir après les bénédictions, on court après Dieu et les bénédictions vont nous poursuivre. Et tout d'un coup, vous avez, waouh, je suis tellement béni. Ça n'a pas de bon sens. Et tout ce que j'ai fait, j'ai vécu pour Jésus. C'est Jésus qui a promis, hein? C'est lui qui l'a promis. Il n'y a personne qui n'a quitté sa famille et ses lieux, etc. Vous vous rappelez de qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il va recevoir même au centuple dans cette vie. Toutes les choses qu'il a abandonnées, il va recevoir au centuple. Avec des persécutions. Ça va avec. Les persécutions ne viennent pas juste des non-croyants non plus. Des fois, les chrétiens vont vous persécuter parce que vous êtes tellement bénis. Ils vont dire, C'est pas juste, vous êtes tellement béni. Mais pour, Dieu n'a fait exception de personne, il veut que vous soyez béni aussi. Amen. Ça vient comme ça. Donc, vivez pour Jésus, vivez pas pour vous-même, et les bénédictions vont vous poursuivre. J'aime tellement qu'est-ce que la parole vivante dit ici. On va finir avec ce verset dans la parole vivante. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. J'ai souvent prêché là-dessus, n'est-ce pas? Une petite vie égoïste. Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Est-ce que vous voyez le langage est vraiment puissant là? On voit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus supposés de vivre selon leur gré, c'est-à-dire que ce n'est plus eux qui sont en charge. Ce n'est pas moi qui décide qu'est-ce que je fais dans la vie. Ce n'est pas ma vie. Je suis crucifié avec Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et plus vous êtes abandonné à la volonté de Dieu, plus Dieu peut vous combler de ses bénédictions. Amen. Mais c'est vraiment vrai que si on vit pour soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On mène une petite, je mets l'accent sur petite, vie égoïste. La vie est petite quand on vit pour soi-même. La vie est petite. Le contraire, c'est vrai. Quand on vit pour les autres et pour Dieu, la vie est grande. Jésus l'a bien dit, à moins que la semence tombe par terre et meure, il demeure seul. Vous savez, une semence, tu peux amener avec toi dans ta poche pendant des années une petite semence, que ce soit du blé d'Inde, du pépin pour une pommière, un pommier. Je voulais juste prouver que j'ai un accent. Bien réussi. Mais tu peux amener ça dans ta poche pendant des années et ça demeure seul. Ça ne fait pas grand-chose. Mais tu prends la même semence, tu la laisses tomber par terre et ça meurt. La même semence qui était seule dans ta poche va pousser, devenir un arbre, va faire pousser les feuilles, les fleurs qui vont devenir les pommes, et chaque pomme va avoir à l'intérieur d'elle des vingtaines de semences. Et chaque semence représente un autre arbre qui va produire encore plus de semences, Donc vois-tu, qu'est-ce que Dieu veut pour que la volonté du ciel soit accomplie sur la terre? Il veut vraiment, c'est sa volonté pour nous aujourd'hui, qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais qu'on vit pour lui. Et là, notre vie n'est plus petite, notre vie commence à prendre en ampleur, une grandeur, et on porte du fruit. Moi, je veux porter du fruit, et vous? Je veux que ma vie compte pour l'éternité. Je veux que ma vie soit multipliée. Pourquoi Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, il le sauvera, il le trouvera. La vraie joie, le vrai bonheur se trouve en faisant la volonté de Dieu. En faisant la volonté du ciel, ici sur la terre. Donc, Père, au nom de Jésus, nous te remercions aujourd'hui, car nous sommes les citoyens du ciel. Et si on met l'accent sur ce qui est dans le cœur, et notre cœur est net devant toi, si on se laisse dominer par l'amour, et si on vit pour toi au lieu de vivre pour nous-mêmes, on sait que les gens vont voir qu'il y a une différence. Ils vont poser des questions. Notre vie, en tant qu'individu et aussi en tant qu'une église collectivement, nous allons porter davantage du fruit. Nous te remercions pour cela, Père, au nom de Jésus. Dans une minute, je vous invite. D'habitude, on termine toujours à midi. On a pris un peu plus de temps dans la louange et l'adoration ce matin. Mais on aimerait ce matin juste terminer la réunion en recevant la Sainte Cène. Mais avant de recevoir la Sainte Cène, j'aimerais que tous les yeux soient fermés. Je veux juste donner cette invitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un un homme, une femme, un enfant ici présent qui dirait, pasteur, je ne suis pas sûr que mon nom est inscrit au ciel. Je n'ai pas l'assurance que mon nom est dans le livre de vie. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas certain que vous êtes déjà délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus. Si vous n'avez pas cette assurance, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que si vous confessez avec votre bouche le Seigneur Jésus, et un Seigneur, c'est un maître, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre pour lui et pas pour vous-même. Et si vous croyez de tout votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que vous serez sauvés. C'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un, même si c'est une personne ou plus, qui dirait, pasteur, je veux que tu pries avec moi, j'aimerais prier, j'aimerais donner ma vie à Jésus, je veux être sûr et certain avant de quitter aujourd'hui que je suis sauvé, né de nouveau, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne, deux personnes, trois personnes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se rejoindre à ces trois-là? Alléluia. On va prier sinon avec ces personnes qui ont levé la main. Et on va confesser que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce que j'ai dans mon cœur, ça va prendre un peu de courage, mais j'ai dans mon cœur de vous demander, vous qui ont levé la main, juste de venir ici en avant de prier, parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus a dit que si tu as honte de moi, dans cette génération perverse, j'aurai honte de toi, car je viens avec les anges dans la gloire. Donc aujourd'hui, c'est une occasion. Si on ne peut pas, dans une église où les gens aiment Jésus, si on ne peut pas dire sans honte que j'ai pris une décision de marcher avec Jésus, on va avoir bien de la misère à le faire en dehors de l'église. Donc, ce n'est pas du tout dans le but de vous embarrasser. On est là parce qu'on vous aime. Moi, j'ai dû faire cela un jour, confesser Jésus publiquement. Mais je vais juste demander, on va faire une prière tous ensemble, mais j'aimerais que les personnes qui ont levé la main, que vous venez juste ici me rencontrer, on va prier ensemble. Et en faisant cela, c'est un acte de foi que vous faites en disant, j'accepte Jésus aujourd'hui. Peut-être vous l'avez déjà fait quelque chose dans le passé, mais vous manquez de l'assurance. Aujourd'hui, vous allez quitter ce lieu avec une assurance, sans aucun doute, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes citoyen du ciel. Donc venez maintenant, ne soyez pas gênés, n'ayez pas honte de Jésus, venons. Il y a quatre personnes même. C'est bon. Des fois, juste regardez-moi une minute. Je suis content pour vous. Ça fait quelque chose dans mon cœur de voir votre humilité du cœur. Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et là, vous avez démontré que vous voulez vous humilier devant Dieu, même devant ces hommes en disant, oh, j'ai besoin de Jésus. Mais c'est une bonne chose. Car Jésus vous aime, il est mort pour vous, il est ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à eux? Venez, n'hésitez pas. Et je vais demander à toute la congrégation de prier avec ces personnes. Merci Père Céleste. Et je vais demander à chacun de vous de répéter cette prière après moi, de tout votre cœur, en sachant que Dieu est là. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité des morts? Que vous croyez qu'il vous aime. On va prier cette prière. Et tout le monde, prions ensemble. Père Céleste, je viens à toi avec un cœur sincère. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi et que Jésus, tu es ressuscité. Entre dans mon cœur
par ton Esprit Saint. Fais de moi une nouvelle création. Je te remercie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père Céleste. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. On veut vous féliciter pour votre décision. On est content. On va prier pour vous parce que c'est juste le commencement. Maintenant, il faut grandir en Jésus. Il faut continuer à vous nourrir avec sa parole, prier. Tantôt même, je vais vous donner l'occasion. Donald et Alice sont ici. J'aimerais que, juste là, Donald Paquin et Alice Paquin, peut-être après, si vous avez des questions, ils vont être prêts à prier avec vous. C'est des gens qui ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit aussi avec l'évidence nécessaire de parler à notre langue. Pour tout de suite, on va recevoir la Sainte-Seine. Et donc, je vais vous inviter. Vous pouvez prendre votre place. On va recevoir la Sainte-Seine. Mais est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour nos frères et sœurs? Donc, si les gens qui vont servir veulent venir...